Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Trois atrocités ont marqué ce début de siècle en France. En janvier 2006, un jeune homme de 23 ans, Ilan Halimi, est enlevé, séquestré puis sauvagement torturé par une bande pendant plus de 3 semaines à Bagneux dans les Hauts-de-Seine parce qu'il est juif. Le 19 mars 2012, vers 9h, un homme armé gare son scooter devant une école juive proche du centre de Toulouse. Il ouvre le feu et tue Jonathan Sandler, 30 ans, professeur de religion juive, et ses deux fils, Arié, 5 ans, et Gabriel, 3 ans, parce qu'ils sont juifs. Il poursuit dans la cour une petite fille de 8 ans, Myriam Monsonego, et l'abat d'une balle dans la tête parce qu'elle est juive. Il blesse un adolescent de 17 ans, puis s'enfuit. Vendredi 9 janvier 2015, il y a donc 5 ans, presque jour pour jour, un homme prend en otage les clients et les employés d'un supermarché cachère de la Porte de Vincennes à Paris. L'homme leur spécifie qu'il les a ciblés parce qu'ils sont juifs. Il abat 4 clients, Johan Cohen, 23 ans, qui habitait Sarcelles dans le Val d'Oise, Yoav Atab, 22 ans, un étudiant d'origine tunisienne, et François-Michel Saada, un père de famille de 64 ans, cadre à la retraite, ainsi que Philippe Braham, 45 ans, cadre commercial dans une société d'informatique. Après 2 années de baisse, en 2018, le nombre d'actes antisémites recensés en France a à nouveau bondi de 74%. En un an, ils sont passés de 311 à 541. Au-delà de l'antisémitisme islamiste, nous assistons à la résurgence d'une extrême droite identitaire virulente qui n'hésite plus à passer à l'acte, a commenté Frédéric Potier, qui est délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il était cité par Le Monde. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, 5 ans après l'hyper-cachère, 3 personnes racontent l'antisémitisme dont elles ont été victimes dans leur quotidien et les 3 solutions qui s'offrent à elles pour faire face à cette situation plus que tendue. Des récits de Rémi Dibowski-Douat, diffusés pour la première fois en mars 2015, donc quelques mois après ces attentats.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour. J'arrive chez Joël, pas très loin de l'hypercachère où s'est déroulée la tuerie qui a coûté la vie à 4 juifs, début janvier.
C'est à la menthe.
Ouais, mais traditionnel.
En faisant le thé, elle me raconte son histoire familiale.
Je suis née à Oujda et je suis arrivée en France à l'âge de 6 mois.
Sur le frigo, d'innombrables photos des enfants de la maison, en vacances, à la maison, lors d'une bar mitzvah. C'est l'histoire de l'un d'eux que sa mère accepte de me raconter, à condition que je ne révèle rien qui permette de l'identifier.
Un soir, je me rappellerai toujours de ce soir, c'était un 25 mars, donc ça fera 1 an à la fin du mois. Lorsque je suis rentrée, mon fils s'est roulé par terre, a fait une crise de nerfs, et il m'a dit, dans ces termes-là, je ne peux plus retourner au collège, c'est dangereux pour ma vie, j'ai une cité sur ma tête. Et là, franchement, les bras m'en sont tombés, j'étais complètement abasourdie de cette violence-là, dans la bouche d'un si petit bonhomme. Et c'était en même temps des propos d'adulte. C'était structuré, c'était pensé, c'était profond. Et donc, il a énuméré les insultes qui ont été proférées à son encontre. C'était « sale juif de merde »,« ta religion, je lui pisse dessus ». Ce genre de ritournelle. Il me disait « maman, j'ai mal au ventre en approchant des portes du collège ». Donc je lui ai dit, mais quand on te disait sans arrêt, sale juif de merde, je te crache dessus, où ils étaient tes copains? Parce que il a des copains. Et il a des copains de tous bords, puisqu'il a grandi avec eux dans une école laïque de quartier. Et il m'a dit, la plupart du temps, on venait m'agresser quand j'étais seule, c'est-à-dire en rentrant aux toilettes ou en sortant des toilettes ou parce que c'était une interclasse et j'allais en cours et parfois il est en retard, donc il est seul. J'ai un travail parce que je dois élever mes enfants seuls, donc j'ai un travail qui est très prenant en termes d'horaire. Je rentre tard le soir et parfois mon fils m'appelait sur mon lieu de travail et je n'ai pas su écouter ses appels au secours puisque je lui raccrochais souvent au nez en lui disant écoute, ne m'appelle pas au travail, sans même vraiment chercher à savoir ce qui n'allait pas. Donc j'ai appelé le proviseur de l'établissement qui m'a donné un rendez-vous dès le lendemain matin à la première heure. Elle m'a accueillie et elle m'a dit tout de suite, il ne fallait pas que votre fils parle de sa bar mitzvah. À ma grande surprise, elle savait pourquoi je venais. Et effectivement, c'était l'année de sa bar mitzvah. Il se trouve qu'en abordant les trois religions monothéistes qui sont au programme de l'année de sixième en cours d'histoire, le professeur a demandé quelles étaient les religions en présence dans la classe. Et mon fils a répondu, moi je suis juif et je vais célébrer ma bar mitzvah cette année. Et à partir de là, le déchaînement de haine, de violence verbale, de toute une école, c'est-à-dire d'élèves de la sixième jusqu'à la troisième, n'a cessé d'agir tous les jours et en continu. En sortant du bureau, j'étais vraiment, vraiment dépitée d'entendre la proviseure ouvrir le dialogue en me disant, en m'attaquant et en attaquant mon fils sur le fait qu'il ait évoqué sa bar mitzvah dans un collège. Elle me dit, si c'est un collège laïque, alors on ne parle pas de sa bar mitzvah. Alors je lui ai dit, donc demain, si vous avez un enfant catholique qui parle de sa première communion, on va le traiter de sale catholique de merde, parce que c'est ça ce qu'on a dit à mon fils, sale juif de merde. Et je lui ai dit, mais si sale juif de merde n'est pas assez choquant pour vous, est-ce que sale femme de merde, ça vous choque ? En tant que femme à la tête d'un établissement, ayant fait votre carrière dans l'administration, ayant fait de hautes études, est-ce que ça vous choque ? Si je vous dis sale arabe de merde, est-ce que ça heurte vos oreilles ? Si je dis sale noire de merde, est-ce que ça vous blesse ? Donc, changez le qualificatif et vous verrez à quel point la portée de ces mots est d'une violence extrême. Et qui plus est, quand on vous le dit, on vous le ressasse à longueur de journée par des enfants qu'il ne connaissait pas, qui étaient des étrangers à sa sphère de la classe et à sa sphère de cursus, puisque ça pouvait être des grands frères de troisième, des grandes sœurs de quatrième, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a décidé que c'était un bouc émissaire, sur la simple appartenance à une religion qui est différente de celle des autres ou qui est stigmatisée ou est bannie. Voilà. En sortant de l'entretien, je me suis dit, cette femme vit sous le règne de la terreur. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue. Son souci, c'est véritablement de ne pas faire de vagues et de ne pas stigmatiser son établissement comme un établissement où règne finalement l'antisémitisme, le racisme, le non-respect des différences et la violence. La violence, une très grande violence. Et a posteriori, c'est là que toutes les images remontent à la surface. C'est-à-dire que quand vous prenez votre linge sale et que vous faites vos machines à laver, vous vous rendez compte que le survêtement est déchiré. Mais il n'est pas déchiré comme un accroc d'une branche d'arbre. Il est déchiré finement, comme si on avait utilisé une lame de cutter. Donc, c'est toutes ces images qui reviennent après. Mais quand vous n'êtes pas au courant, vous pouvez passer à côté d'indices. Lorsque mon fils a éclaté en sanglots le soir où je suis rentrée du travail, ce même après-midi, il a éclaté en sanglots en cours de musique. Et quand plus tard j'ai rencontré le professeur principal, qui est un professeur de maths, m'a dit oui, effectivement, on le voyait souvent pleurer en classe. Comment peut-on, en France, aujourd'hui, laisser un enfant pleurer systématiquement en classe pendant 3 mois sans convoquer les parents ? Comment on peut passer à côté de la souffrance d'un adolescent ? Il pleure en classe. On le laisse pleurer et on ne convoque pas les parents, ne met pas un mot dans le cahier rose, le cahier de correspondance, pour dire « alerte, il y a quelque chose qui ne va pas ». Par contre, on abreuve le cahier rose quand il manque un tube de colle pour l'art plastique. C'est hallucinant. Là-dessus, je lui ai dit, je dois dire que je suis sortie déroutée, dépitée, mais fermement décidée à ne pas remettre mon fils dans cet établissement. Donc l'enquête a eu lieu, on a demandé à mon fils de donner des noms et il a refusé de les donner parce qu'on l'avait menacé en lui disant « si tu donnes les noms, on sait où tu habites et donc on brûlera ta maison et on sait où travaille ta mère et donc on ira l'agresser ». La police a probablement, enfin, j'imagine qu'elle a dû mener une enquête, mais succincte, et je n'ai jamais eu de retour. L'affaire a été classée, et voilà. La solution, et qui pour moi est un échec aujourd'hui, même si je les remercie d'avoir accueilli mon fils, la solution était de le mettre dans un établissement privé de confession juive. Pourquoi c'est un échec? Parce que si on fait tout ça, si on met tous nos enfants dans des établissements privés confessionnels, alors on aura échoué par rapport à la laïcité. Alors, ce sont des écoles de très bon niveau, mais ce sont des écoles où, finalement, on vit un peu en vase clos. La mixité n'est pas vraiment au rendez-vous. Les souvenirs que j'ai de ma scolarité, j'ai eu une scolarité dans le 93, une scolarité qui était heureuse. J'avais des amis de tous bords. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du hand, du volleyball, j'ai fait du basket. J'avais des amis noirs, j'avais des amis arabes, j'avais c'était super mélangé. Il n'y a jamais eu ces problèmes. Je n'ai jamais eu ces problèmes. On pouvait avoir un problème de fille et se dire t'es moche ou t'es grosse, mais jamais un problème sur la religion ou sur la couleur de peau ou sur jamais. C'est quelque chose de très nouveau et de très violent et d'absolument insupportable. C'est insupportable. Et quant au discours de dire, bon ben finalement, la solution c'est que vous alliez vivre en Israël, là je m'insurge complètement. Parce que des citoyens français qui sont nés en France, qui ont construit leur vie ici, qui sont amoureux de la France, qui ont participé aussi à l'effort économique, je ne vois pas comment, sur quel... postulat, on pourrait décider que finalement la seule solution serait d'aller vivre en Israël. Il faut se battre, il faut lutter contre ça, il faut continuer à manger kasher, à aller dans des restaurants, à voir des spectacles, à sortir, à fêter des mariages, des communions, des bar mitzvot et toutes sortes de fêtes. Il faut continuer à vivre parce que sinon c'est s'éteindre, c'est mourir.
France Culture, les pieds sur terre.
J'arrive chez Lévi Abrahami, à Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Il m'ouvre la porte.
Bonjour.
L'intérieur de son petit appartement est monacal. Sur la table, des livres en hébreu et deux canettes de coca.
C'était dans les RER A. Je t'en quitte pas. Quatre individus, des blédards, plus de 40 ans, voire même 50, se rentraient. Je sentais une certaine tension, une certaine... Et là, il y en a un qui faisait une prière en arabe très fort. Je comprenais pas, je comprends pas l'arabe, évidemment, mais j'entendais l'ihoud. Je sais que l'ihoud, ça veut dire juif en arabe. Et à la fin de cette espèce de prière, il m'a fait une quenelle. Je suis pas obsédé par la quenelle, salut nazi, pas salut nazi, j'en sais rien. Est-ce que c'est un salut nazi ou pas? Alors, est-ce que tous les gens qui font la quenelle sont antisémites? Probablement pas. Maintenant, en l'occurrence, c'était un geste qui avait une connotation antisémite pour le coup. Et donc, j'ai répondu par la bras d'honneur. Un des quatre s'est levé, a commencé à me menacer du poing, avec le poing. Il m'a insulté, j'ai répondu. Et là, il y en a qui me rentrent dedans, et ça va très vite. Et ils se mettent à quatre sur moi, je reçois des coups de poing. J'essaie de me défendre comme je peux, c'est un peu compliqué. Mes lunettes qui voltigent, j'ai eu un œil au beurre noir. D'ailleurs, j'ai eu 3 jours d'ITT. Et à la fin de l'agression, il y en a un qui me dit, de toute façon, toi, t'es un juif, votre passé, là, Israël, c'est pas votre pays, vous n'avez pas de pays, dégage d'ici. Je fais, mais toi, t'es quoi, en fait? Il fait, moi, je suis algérien, je fais, retourne dans ton pays. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne dans ton pays, tu pourris la vie des Français ici. La vérité, entre parenthèses, c'est que moi, j'en ai marre qu'on nous dise souvent, il faut pas répondre, baisse les yeux, ne le regarde pas, il faut pas trop les chauffer. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah, tu les chauffes quand tu les regardes. Ah, mais attendez, à un moment donné, ils sont très susceptibles, mais c'est une chose. Quand je croise quelqu'un, il a pas craché devant moi dès qu'il me croise, quoi. Or, souvent, des jeunes musulmans que je croise dans la rue, ils crachent par terre. Alors, peut-être que je suis parano, mais depuis petit, où j'habitais dans la banlieue, c'est souvent le cas. Et quand j'ai réagi comme ça, quand j'ai dit « retourne dans ton pays », et là, il y a une espèce de bobo.
bobo parce qu'il avait le... Je sais pas si on peut dire le look, mais c'est comme ça que je l'intéresse. C'est comme ça que je l'ai vu. Si vous voulez, pour moi, c'est, pour moi l'archétype, c'est le type qui se balade sur les quais Saint-Martin, qui boit ses petits vins chauds tous les samedis soirs, qui me dit « Non, il ne faut pas parler comme ça. » Jusqu'à là, le type n'a pas bronché, personne n'a bronché, et là, il me fait la morale. Et qui me fait « Non, il ne faut pas parler comme ça. Faut pas dire c'est pas bien de parler comme ça, dis donc. Vous comprenez, ils sont pas intégrés, on les accepte pas, on les rejette, etc. Et ça c'est plus possible, quoi. Et ce qui me frappe, c'est que d'un côté l'indifférence, mais d'un autre côté une espèce d'une forme de soumission, c'est un mot à la mode en ce moment, soumission. Moi personnellement, j'ai grandi dans le 93 à Épinay-sur-Seine. J'ai subi quotidiennement des insultes antisémites, parfois des agressions. C'était, je veux dire, ça faisait partie du décor, ça faisait partie de ma vie, quoi. Je revenais de l'école le soir, voilà, il y avait toujours une petite bande qui vous lance une pierre, qui vous insulte. Vous allez à la synagogue le Shabbat, c'est la même chose. Notamment dans les années 2000, c'était la période de l'intifada en Israël, ça posait des grosses tensions. Mais je pense que c'est un prétexte, le conflit israélo-palestinien. Il y a un problème de fond d'antisémitisme dans l'islam. Et avec un mélange de haine de la France, tout ce cocktail-là est explosif et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Juifs ont quitté massivement les banlieues, moi le premier, les banlieues du 93, alors qu'il y avait beaucoup de Juifs il y a 20 ans encore. À Épinay, vous avez énormément de Juifs. Aujourd'hui, vous avez au moins la moitié qui est partie, voire plus. C'est un peu le même mouvement que les écoles publiques, hein, que des enfants juifs qui partent massivement des écoles publiques. C'est un peu la même idée. Et aujourd'hui, vous avez très peu de Juifs qui habitent le 93. Il y en a encore, mais beaucoup moins qu'avant. Pour des raisons très simples. C'est qu'aujourd'hui, dans ces quartiers-là, c'est plus la France, quoi. C'est-à-dire, vous avez que des voiles, vous avez beaucoup de djellabas. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, si je parle politique, ça me dérange pas de dire que je me pose des questions pour voter Front National. J'ai pas peur de le dire. Je suis pas naïf, je sais qu'il y a de l'antisémitisme au sein du FN, il doit y avoir des antisémites, des pétainistes, des vichistes, j'en sais rien, probablement qu'il y en a. Mais je sais que le problème de fond aujourd'hui, c'est pas de refaire la guerre d'il y a 70 ans. L'islam pose problème, il y a trop de différences entre l'islam et la culture française, c'est une évidence. La plupart des agressions, des insultes, c'est jamais des jeunes blonds aux yeux bleus qui m'insultaient, c'était pas des Français de souche comme on dit, mais c'était des jeunes maghrébins, c'est une réalité. Le problème de fond il est là, et on a deux peuples qui vont s'affronter, c'est ce qu'on a en réalité aujourd'hui. Si ça continue comme ça, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que ça sera viable d'être en France, en tant que juif ?
Brian a 22 ans, il est plombier et vit chez ses parents, à Pantin, près de Paris. Lui et son père rentrent tout juste du boulot. Ils s'attablent avec moi, prêts à me raconter l'histoire qui a bouleversé la famille. Brian est très pratiquant, contrairement à son père. Alors souvent, il va chez sa tante pour Shabbat. C'est ce qui s'est passé le 2 janvier 2015. Vers 23h30, quand il rentre à la maison, ses parents ne sont pas encore rentrés. Il n'a pas les clés, alors il patiente dans la rue.
C'était un vendredi soir, je sors de Shabbat. Une patrouille de police est arrivée à ma hauteur et elle m'a demandé ce que je foutais là. Et j'aurais dit tout simplement que j'attendais mes parents. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit « Qu'est-ce que t'as sur toi ? T'as rien de dangereux, pas de drogue, pas d'armes ?» Et j'aurais dit tout simplement que j'avais rien du tout. Et ils m'ont posé la question, ils m'ont dit « Mais si on trouve quelque chose, on te fouille ou on trouve quelque chose ?» Je lui ai dit « Bah, vous pouvez venir me fouiller, il n'y a pas de souci, mais vous allez rien trouver. » Ils m'ont dit « Ok, c'est bon, tu peux retourner dans le petit coin. » Parce que j'étais à l'angle d'une rue. Et je les ai regardés, je leur ai dit « Oui, ok, il n'y a pas de souci, mais il y a des façons de parler. » Et ils m'ont dit « Retourne dans ton petit coin ou sinon on va te mettre la fessée. » J'ai souri, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci, je vais retourner dans mon petit coin. » Moi, le Shabbat, je porte un habit religieux qui s'appelle les tzitzit, des fils, pour se rappeler des 113 mitzvot qu'il faut faire tous les jours. Et moi, je les porte que Shabbat. Pour moi, c'est assez important, ça a beaucoup de valeur pour moi. mais je les cache. Ça fait comme un tablier, quoi. Et malheureusement, il y avait quelques fils qui pendaient à l'arrière. Et un des policiers m'a dit, t'as des fils qui pendent. Je regardais, j'ai dit, ah, merci, c'est gentil. Je les ai rentrés. Ils m'ont demandé ce que c'était. Je leur ai dit comme quoi que c'était bien un habit de religieux. Et ils sont sortis, ils les ont attrapés, ils ont tiré. Ils m'ont dit, tu veux pas nous les montrer? Et ils nous ont tiré, je lui ai attrapé le bras. Je lui ai dit, lâchez. Parce que si vous les déchirez, ils n'auront plus de valeur. Ils ont commencé à tirer plus fort. Limite les déchirer, et ils m'ont dit, ah, maintenant toi tu t'habilles en travelot, t'as pas compris que je te chie dessus, toi et ta religion de merde. Il y avait trois policiers, un policier de chaque côté m'a attrapé les mains, ils m'ont plaqué contre le mur, un il m'étranglait avec sa main, et il continuait à me fouiller pour voir si j'avais rien. Ils m'ont enlevé ma ceinture et ils m'ont dit, tu fais moi le malin maintenant. Je lui ai dit, mais j'ai jamais fait le malin. Et il continuait à m'étrangler. Je lui ai dit, attendez monsieur, vous me faites mal. Il m'a dit, mais j'en ai rien à foutre. Et là, j'ai juré, j'ai dit, mais vous savez quoi, sur la tombe de ma tante, que vous allez entendre parler de ce contrôle, je vais pas laisser ça comme ça. Et là, j'ai dit, mais t'as pas compris que moi, je la baisse, ta tante. Ok, je dois mettre trois capotes tellement qu'elle est dégueulasse comme toi. Et là, quand il a dit ça, je l'ai insulté. Et il m'a vraiment étranglé, j'ai perdu connaissance. Je suis tombé, ma tête s'est ouverte. Et après, ils m'ont attrapé, j'ai repris connaissance. Un policier m'a pris la main et c'était un contre-un-mur en crépi. Il a frotté et vous voyez bien qu'il y a encore des cicatrices. Hein, ça fait 2 mois et encore des cicatrices. Ils m'ont mis les manottes, ils m'ont mis dans la voiture. Le policier qui m'a étranglé s'est retourné, il m'a mis des claques. Il m'a dit, ah bon, toi tu veux imiter les Arabes alors que t'es qu'un petit juif. Je lui ai dit, ok. Il m'a relâché, il m'a redonné ma kippa. Il m'a redonné ma ceinture parce que pendant le contrôle, il m'a enlevé ma ceinture. Je veux pour partir, ils m'ont rappelé. Ils m'ont gazé et un policier, il a dit, venons, on achève avant qu'ils retiennent la plaque. Ça veut dire, venons, on part. Et malheureusement pour eux, j'ai retenu leur plaque. Et ils ont vu que j'ai retenu leur plaque, ils ont fait 100 mètres, ils ont fait demi-tour. Ils sont ressortis, ils m'ont dit, tu veux nous mettre dans la merde? Qu'est-ce que tu foutais avec cette gazeuse? J'ai dit, ah bon, vous voulez nous mettre cette gazeuse sur mon dos? Alors que même un mouchoir, on n'a même pas le droit de porter. Et donc une pompe lacrymogène, c'est impossible.
Parce que mon fils, il est religieux, donc le Shabbat... Il ne porte pas ni de téléphone, ni d'argent, ni de carte d'identité, rien sur lui, à part son habit de religieux, qu'on appelle les tzitzit. Shabbat, on n'a pas le droit de porter quoi que ce soit.
Il m'a dit, ferme ta gueule, parce que si je veux, je peux te mettre du shit et de la cocaïne sur ton doigt. Alors ferme ta gueule, c'est mieux pour toi. Il m'a dit, tu sais que toi, tu crois en Dieu, mais ici, c'est moi le bon Dieu, ok? Ici, t'es qu'une petite merde. Ton bon Dieu, là, sorcier, il fait rien pour toi. Bien au contraire. Alors, ferme ta grande gueule et monte dans la voiture. Je me suis tué, je suis monté dans la voiture. Et après, ils m'ont mis au commissariat. Et j'ai fait une garde à vue de presque 24 heures. 17 heures exactement.
Il a passé toute la journée de samedi dans un commissariat enfermé derrière des barreaux. Franchement, j'étais là, je l'ai vu et... Ça m'a fait beaucoup de mal dans la mesure où, venant de la part de la police, traiter de sale juif un jeune qui est religieux, qui ne fait pas de mal, qui est innocent et qui n'est pas voyou, c'est choquant. Je ne sais pas si un jour il ne va pas se passer un malheur pour... J'ai 4 enfants et j'ai 2 filles, 2 garçons et c'est des jeunes impulsifs. C'est des jeunes qui ne vont pas se laisser faire, donc j'ai peur pour eux. Est-ce qu'on est en sécurité dans l'avenir? Est-ce qu'il faut partir? Rester? Subir? On est en pourparlers avec la famille pour savoir si on doit partir, faire notre alia, ce qui veut dire partir en Israël. Tout ce qui s'est passé après l'agression de mon fils... comme Hyper Kacher, Charlie Hebdo, etc. Là, on attend de voir si les choses vont se calmer, si ça va reprendre. Et si ça reprend, là, c'est vraiment c'est un départ définitif. Vous savez, je suis arrivé à 13 ans, je ne savais pratiquement pas lire, pas écrire. J'ai tout appris en France, j'ai un métier, je suis plombier, je fais ce métier avec amour. J'ai choisi la plomberie parce que c'est un métier où il y a beaucoup de contacts, avec toute personne, bien entendu, que ce soit des juifs, des arabes, des noirs, des chinois, des catholiques. Malheureusement, il y a des choses qui nous reviennent. Comme vous savez, il y a eu la Shoah, etc. On n'avance plus, on recule et on est là, on se pose des questions si ça ne va pas revenir un jour ou l'autre.
C'était des témoignages autour de l'antisémitisme, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Thomas Jott. Merci à Ilanit Mimoun, à Samy Gozlan, à Brian, à Michel, à Joël et à Lévi, des nouvelles de ces victimes et ce qu'elles sont devenues 5 ans après la première diffusion de cette émission. C'est sur notre site, à la page des Pieds sur Terre, n'hésitez pas à la consulter. Aurélie Marsay et Camille Richir ainsi que François Connac se sont occupés de cette rediffusion et de bien d'autres choses encore.
Comme une liquide de cœur, n'attends pas que dit que t'as que ton cœur. Je pars.